Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien comme on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Il y a des gens qui disent, bien, il n'y a personne qui a vu Dieu, comment est-ce qu'on peut savoir si Dieu existe vraiment? Mais juste le simple fait de regarder dehors, de voir les arbres, de regarder les fleurs, toute la création, les montagnes, la splendeur de la création de Dieu, juste ça, c'est assez pour nous faire réaliser que Dieu existe. Hein? Il y a des gens qui vont prendre cette montre-là et puis vont dire, oui, il y a un créateur derrière cette montre. Il y a quelqu'un qui a créé cette chose. Mais avec la pensée de l'évolution, ça serait de dire, on prend cette montre, on la jette dans les airs, elle tombe à terre en 10 000 morceaux et puis finalement, on reprend les morceaux, on les jette dans les airs et puis elle va devenir comme ça. Encore une fois, c'est aussi ridicule d'imaginer que tout est arrivé tout d'un coup comme ça et puis il n'y a pas d'une pensée intelligente derrière la création. Mais non, on voit que la création, il y a de l'ordre dans la création et on sait qu'il y a quelqu'un d'intelligent derrière cette création qui a fait des choses glorieuses. Donc, on croit dans le Dieu de la Bible ce matin. Et vous savez, Dieu, il travaille encore aujourd'hui et même si Dieu a agi dans le passé d'une façon belle et merveilleuse, d'une façon artistique, on sait qu'il continue aujourd'hui à œuvrer. Et on va regarder ensemble la définition de l'art. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est dans un dictionnaire Wikipédia sur l'Internet que vous pouvez trouver. Ça vient du latin. Ars, ça dit « habileté, métier, connaissance, technique et une activité humaine ou le produit de cette activité consistant à arranger entre eux divers éléments en s'adressant délibérément au sens, aux émotions et à l'intellect. » Voyez, Dieu, il y a un message à passer et parfois, il va se servir des arts pour parler justement aux émotions. Vous savez, les émotions, l'intellect et au sens. Et vous savez, il y a des gens qui sont auditifs. Okay, on peut parler avec quelqu'un, puis ils vont bien comprendre. Et une autre personne va avoir besoin d'une illustration pour comprendre et saisir une vérité. Parce que Dieu nous a tous créés différents. On est tous différents, n'est-ce pas? Alors, quand Dieu veut parler à quelqu'un, il va se servir de toutes sortes de moyens. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est célébrer les moyens que Dieu a pour communiquer son message. Alors, Dieu, c'est un Dieu passionné des arts. Et ce matin, on va inviter Martine qui va nous partager un petit peu cette passion qu'elle a pour les arts.
Merci, Pasteur Joël. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici puis de partager un tout petit peu sur la créativité, sur les arts. Je vais regarder mes notes. Voilà. Alors, dans ce que je vais partager, on va peut-être voir au début qu'est-ce que c'est l'art ou la créativité, d'où ça vient et à quoi ça sert. Par la suite, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans le cours de l'histoire avec cette créativité-là. Et on va voir par la suite que tout n'est jamais perdu, puisque Dieu, toute chose bonne vient de lui, la créativité vient de lui. Et de la même façon qu'il ne nous a pas abandonnés, qu'il a envoyé son fils Jésus pour nous racheter, bien, de la même façon, il veut racheter aussi le domaine artistique, la créativité, dans nos vies et dans l'Église. Qu'est-ce que c'est l'art? À quoi ça sert? Il y a peut-être des réponses qui vous viennent. On pourrait dire, nous, en tant que chrétiens, que oui, l'art, ça sert à la louange. Ça peut servir aussi à l'évangélisation. Mais est-ce que ça peut servir à autre chose? Ou est-ce que ça peut être autre chose? On va voir un petit peu plus loin qu'il y a des exemples dans la Bible là-dessus. Dieu, comme le dit Joël, puis comme on le sait tous, c'est le créateur, c'est l'artiste par excellence. Et il y a un verset que je veux qu'on aille voir, tu l'as lu, mais j'aimerais ça qu'on le relise parce que c'est quand même assez important. Romains 1, 20. On voit que Dieu s'est révélé dans la création qu'il a faite. Il s'est révélé, c'est-à-dire qu'il a communiqué un peu de qui il était. C'est une des façons qu'il a choisi pour nous parler de lui. Donc là, on commence à avoir des indices sur qu'est-ce que c'est l'art, qu'est-ce que c'est la créativité. C'est un moyen de communication. C'est un moyen d'exprimer qui on est. Un moyen d'exprimer qu'est-ce qu'on ressent, un moyen de parler de nous, qui on est vraiment à l'intérieur. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, ce serait tellement impossible de décrire Dieu vraiment en entier de A à Z, mais Dieu se révèle en partie à travers sa création, de ce qu'il a fait. Puis on sait à quel point la nature, la création nous émerveille, ça nous dépasse. Alors Dieu parle de lui à travers ça. Nous, hommes et femmes, comme on a été créés à son image, ça veut dire qu'on a reçu un potentiel de créativité. Vous êtes d'accord? Bien. Donc, on va voir plus loin que ce potentiel-là, de la même façon que l'homme, par le péché qui est entré dans le monde, l'homme a été déchu, comme on pourrait dire, on va voir aussi que ça a affecté tous les domaines de sa vie, dont la créativité. Mais comme je disais, Dieu veut racheter tout ça. Juste un petit exemple entre parenthèses. La créativité, ce n'est pas seulement dans le domaine artistique. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Quand je pense aux finances, aux affaires, quelqu'un peut avoir des talents pour l'organisation, organiser des choses. Un autre, ça va être pour construire, dans l'ingénierie, etc. Toutes ces choses-là où on peut créer, on peut être créatif. Puis j'aime bien un passage, quelques passages, on voit aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, par exemple, l'importance que Dieu accorde à la beauté, à ce qui est dans les détails, dans les moindres détails. On voit, par exemple, tous les détails artistiques qu'il donne pour la construction de l'Arche de l'Alliance, tous les détails qu'il donne aussi pour le tabernacle. Ça devait être vraiment d'une splendeur et d'une beauté. Pourquoi? Parce que ça parlait encore une fois de lui. Il donnait ses instructions, c'était une œuvre artistique, et puis ça parlait de lui à travers ça. Un verset que j'aimerais qu'on aille voir, Exode 31. Parce que c'est la première fois, en fait, dans Exode 31, où il est mentionné que quelqu'un, qu'une personne est remplie de l'Esprit dans l'Ancien Testament, dans les Écritures. Et moi, je suis tellement contente parce que la personne qui est remplie de l'Esprit, bien, c'est justement une personne artistique que Dieu a choisie. Donc, ça nous parle, moi, ça me parle beaucoup en tout cas. Ça veut dire que l'artiste, pour vraiment créer et être en union avec ce que Dieu voudrait qu'il crée, ben, il doit être rempli de l'Esprit aussi. Donc, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Vois, j'ai appelé par son nom Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze. » Et ça continue ainsi de suite. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là, qui sont créées ou travaillées par ces hommes-là. Et il y a en anglais, par exemple, au verset 4, pour concevoir des plans, en anglais, on traduisait par « artistic designs ». Donc, on voit vraiment que c'est au côté artistique que Dieu fait allusion dans ce passage-là. Je n'ai pas remarqué à quel âge j'ai commencé. Je veux juste passer rapidement un petit rappel sur au début, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a voulu qu'on soit participants de sa création, parce qu'il a dit dans Genèse 1, 28, « Dominez, multipliez et assujettissez. » Moi, je pense que ça englobait tous les aspects de la vie humaine sur Terre, dont la créativité. Sa vision finale, c'était le royaume de Dieu, la cité céleste. On voit par la suite qu'il y a eu le péché qui est entré dans la vie de l'homme et d'Adam et Ève, puis que le péché n'a pas seulement brisé la relation qu'ils avaient avec Dieu, mais ça a brisé aussi la relation qu'ils avaient entre eux, d'humain à humain. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de la solitude, du racisme, du génocide, divorce, guerre, etc. Ça a brisé aussi la relation que l'homme avait avec lui-même, d'où découlent aussi des problèmes de santé mentale, des inquiétudes, des phobies, des faux raisonnements, sans oublier les maladies physiques, le cancer, etc. Ça a brisé aussi son rapport, le rapport de l'homme avec la Terre. On voit aujourd'hui où on en est rendu avec notre belle planète. Donc, la Terre elle-même, elle souffre des conséquences du péché. Ce qui fait que tous les aspects de notre vie ont été comme affectés, un peu brisés. Mais comme je dis, et que je le répète, Jésus est venu sur Terre pour racheter le monde. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a voulu restaurer ça. C'est sa création. Ici, à l'Église de la Victoire, on sait, comme je dis, que le salut, ce n'est pas seulement le salut de l'âme, c'est le salut de tous les aspects de notre vie, corps, âme, esprit. Et j'inclus aussi, ce qui est sous-jacent, c'est notre créativité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre dire, par exemple, peut-être plus il y a quelques années, mais même sûrement encore aujourd'hui, dans quelques églises, la danse, ça ne vient pas de Dieu, ça. Ou bien le cinéma, non, ça, c'est vraiment pas de Dieu. C'est malheureux, mais oui, on a parfois des raisonnements qui sont comme ça. Ce que je voudrais vous amener à découvrir, bien que vous le sachiez déjà, c'est que c'est pas tellement la forme, mais plutôt le contenu qu'il faut juger. Je m'explique. La forme, c'est le contenant dans lequel on veut faire passer un message. Donc, la forme, c'est la peinture, la sculpture, la danse, le mime, le cinéma, la littérature, la poésie, toutes ces choses-là. C'est comme le contenant, c'est la forme. Mais le contenu, c'est le message qu'on fait passer à travers. C'est le message que l'artiste veut communiquer. On se souvient que l'artiste, il parle de lui à travers la créativité, à travers l'art. Il parle de ce qu'il vit, il parle de ce qu'il ressent, il parle de sa vision du monde. Qu'il soit chrétien ou non chrétien, qu'il croit en Dieu ou pas, l'artiste parle de sa vision du monde. Il transmet les valeurs dans lesquelles il croit. On peut donc conclure que l'artiste qui connaît Dieu, qui est né de Dieu, va parler de lui, de sa vie avec Dieu, va parler de Dieu aussi. Et ça va glorifier Dieu. En conclusion, l'artiste qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas né de Dieu, est comme coupé de lui. Il va avoir un talent, il va avoir de la créativité, mais elle est encore comme déchue, si on pourrait dire. Ça ne veut pas dire maintenant que tous les artistes non chrétiens font des œuvres qui n'ont pas de bon sens puis qui n'ont pas de valeur. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de dire que cette créativité-là ne sert pas le premier but qui est de glorifier Dieu. Je vais essayer de terminer. On voit, oui, je vais terminer avec ça, par exemple. On voit dans la Bible plusieurs exemples d'expressions artistiques, plusieurs formes. On sait tous qu'il y a la musique, parce que beaucoup dans les psaumes, on parle des instruments, des cymbales et tout ça. Donc ça, c'est clair, il n'y a personne qui s'objecte à ça. Concernant la danse, par exemple, là, c'est... Hein? Mais pourtant, on voit que même David a dansé. Et c'était inscrit, je ne lirai pas, dans 2 Samuel 6, vous irez voir, qu'il dansait de toutes ses forces. Mais moi, ça me fait penser au verset « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta pensée. » Donc, sa force, il le louait avec tout son corps. Pourquoi? Parce que l'Arche de l'Alliance revenait. Donc, la danse, c'était quoi pour lui? Il manifestait sa joie. Il manifestait son je ne sais pas comment dire, il n'y a pas de mots, justement. Et c'est justement quand il n'y a pas de mots qu'on peut utiliser l'art. Les mots font appel souvent à l'intellect, mais l'art va relever, soulever quelque chose qui est évident, mais qui ne se dit pas nécessairement avec les mots. L'art met en évidence une situation, un fait, une émotion. L'art révèle, souligne ce qui est profond, met en évidence une vérité. Vous savez qu'il y a quelqu'un? Bien, vous savez. Il y a beaucoup d'exemples de sculptures ou de travaux d'orfèvrerie dans l'Ancien Testament. On en voit beaucoup. Puis justement, il y a Moïse qui a fait une œuvre d'art et qui a servi à convaincre de péché les Israélites. Vous savez à quoi je fais allusion? Au serpent d'airain. Dieu aurait pu utiliser la parole pour parler au peuple. Ce n'est pas ce qu'il a choisi. Dieu aurait pu aussi demander à Moïse, « Prends un des serpents qui est mort là et lève-le pour le montrer au peuple. » Ce n'est pas ça qu'il a choisi. Il a demandé de fabriquer un serpent d'airain. Ceux qui regardaient, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur? Ils étaient confrontés à leur péché. Ils étaient convaincus de se repentir. Ils étaient sauvés. Ceux qui ne regardaient pas ne voulaient pas admettre leur erreur, leur péché, et ils sont morts. Je dis ça rapidement, là, mais c'est un peu ça que je veux montrer en disant que l'art va soulever quelque chose, va mettre en évidence quelque chose de profond, une vérité. Il y a beaucoup d'autres exemples aussi. Par exemple, si on pense, Jésus qui utilisait une forme littéraire, la parabole. On sait tous, c'est comme des contes. D'autres exemples, même, et je termine là-dessus, sur quelques exemples. Dieu aussi a donné des instructions, il a donné des mises en scène, par exemple, à certains de ses prophètes, Ézéchiel. Ézéchiel, parfois, il lui demandait, « OK, tu vas te placer comme ça, tu vas faire ça, tu vas faire telle action, tel geste, tu vas avoir tel vêtement, tu vas faire telle chose. » Mais il ne lui disait pas d'utiliser la parole nécessairement. Dieu lui demandait de faire ça pour que les gens, pour que le peuple voit et constate, que le peuple soit touché par cette mise en scène. Oui, je pense que j'ai dit à peu près ce qui reste à dire peut-être en concernant les styles littéraires. Dans la Bible, on voit de la poésie, si on parle du Cantique des Cantiques. On peut voir des récits d'aventures en mer dans le psaume 107, une étude de sciences naturelles dans le psaume 104, un cri pour du secours dans le psaume 70, un chant de repentance, le psaume 51, des études historiques dans Juge, Samuel, Roi, Chronique. Donc, il y a toujours une façon de voir les choses. On peut dire que, non, il n'y a pas de forme d'art dans la Bible, il n'y a pas vraiment d'exemple. Mais non, c'est se boucher les yeux. Parce que Dieu est créateur et il utilise notre créativité pour parler de lui, parler de notre vie avec lui. Je vous encourage à briser les barrières. Et mon souhait le plus cher, c'est de voir Dieu racheter les arts dans l'Église. Bon dimanche.
Merci. Gloire à Dieu. Je vais juste garder mes notes, par exemple. Merci. Gloire à Dieu. Bien, moi, je crois dans les arts. Je crois que, absolument, le Seigneur veut se servir des arts pour rejoindre le Québec. Croyez-vous ça ce matin? Amen. Moi, je pense que ça va être rafraîchissant de voir qu'est-ce que Dieu va faire ici prochainement. Puis, je suis très, très encouragé par la présence de Martine. Parce que, vous savez, avant de revenir au Québec, mes yeux se sont ouverts un petit peu à l'importance des arts. Avant, là, je peux vous dire, j'étais un chrétien normal. Et puis, je ne pensais pas vraiment à ces choses-là. Et même avant de déménager en Alberta, je me souviens que je disais à mon épouse Mathilde, je disais, ouais, la seule chose qui me concerne à l'église du Miracle Channel là-bas, j'ai dit, c'est qu'il y a de la danse là-bas. Puis j'ai dit, je ne sais pas si j'aime bien ça. Et puis, il y a des drapeaux aussi. C'est bizarre, ça. Ça, c'était ma pensée pas renouvelée encore. Mais finalement, quand je suis rendu là-bas et j'ai vu que c'était fait avec goût, et c'était de toute beauté. Et j'ai vu aussi que le Seigneur pouvait se servir de ça pour toucher des cœurs et de sauver des gens. Mais je suis qui, moi, pour dire de ne pas utiliser des drapeaux? Hein? Je pense, par exemple, qu'il faut avoir du goût, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a des choses qui sont faites quétaines, comme on va dire en québécois. Quétaines. Et on n'en veut pas de quétainerie. On va vous dire, on veut des choses qui sont bien faites. Moi, mon but, là, c'est de toujours viser l'excellence. Si on est capable, Quand on n'est pas capable, bien, on y va avec la force qu'on a. Mais notre objectif, ça devrait être de faire des belles choses, hein? Des choses qui vont honorer le Seigneur. Et moi, je peux vous dire, mes yeux se sont ouverts là-bas en Alberta. Et je crois, si on va rejoindre le Québec, on doit travailler un petit peu différemment. Alors, Martine, elle a partagé plein de choses que j'avais dans mes notes concernant justement les arts. Mais elle parlait comment Jésus parlait avec des récits allégoriques. J'avais ça dans mes notes. Aussi, vous savez, Jésus parlait avec toutes sortes d'images. Il parlait des fleuves d'eau vive. N'est-ce pas? Je suis la porte. On sait que ce n'était pas littéral, hein, mais c'était une vérité de la parole de Dieu. Et là, dans Psaume 150, on voit d'autres choses aussi, comment Dieu, passionné des arts, il s'exprimait et il se servait des gens dans la parole de Dieu pour s'exprimer par le moyen des arts. Dans Psaume 150, verset 4, ça dit « Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. » Donc, on sait que la musique devrait faire partie de nos réunions. Savez-vous qu'il y a des églises dans le sud des États-Unis qui sont contre la musique? Et dans les églises, ils doivent juste avoir des chants, c'est des chants, on pourrait dire, a cappella. OK, c'est très, très beau. J'en ai des disques de ces églises-là où c'est juste des chants chantés. Et puis, ils découvrent une façon de créer une musique avec des voix. C'est super beau. Je ne suis pas contre ça. Mais quand on limite et on dit c'est juste ça, encore une fois, on met des barrières où on ne devrait pas en mettre. Mais ça, ça nous montre que la musique et la danse, ça fait partie du plan de Dieu. Et le psaume 4, verset 1, ça dit « Au chef des chantres avec instruments à cordes, psaume de David. » Donc, on sait que David, le roi David, était un chanteur également. Et dans 2 Samuel 6, 14, ça dit « David dansait de toute sa force devant l'Éternel, comme Martine nous a partagé. » À quelque part, le Saint-Esprit doit être d'accord avec nous, Martine, hein? Parce que c'est des choses qui reviennent. Donc, on voit que Dieu était passionné, il est toujours également passionné des arts. Alors, si Dieu aime ça, s'exprimer de cette façon-là, comment ça, on s'en sert pas autant. Mais je pense que c'est le temps de justement de ramener, de reprendre les arts et de les intégrer dans nos réunions. Et on voit également l'emploi d'images. Vous savez, quand on pense au sacrifice dans l'Ancien Testament, quand vous pensez à ça, là, on pourrait dire, waouh, c'est donc bien laid. C'est laid de voir les sacrifices qui se passaient dans l'Ancien Testament. Et même, je me souviens du témoignage d'un chanteur gospel qui enregistrait un disque, il parlait du sang de l'agneau. Et puis, il y avait une chanteuse qui était là, une choriste, puis elle posait la question au chanteur, elle dit, « Mais pourquoi vous chantez sur le sang, puis des choses comme ça? Mais pourquoi vous faites ça? » Et même, il y a des dénominations chrétiennes qui enlèvent tous les chants dans leur répertoire qui s'adressent au sang, parce qu'ils disent, « C'est trop dégueulasse, on veut. C'est pas beau. On n'aime pas s'entendre parler de ça. » Mais pourtant, Dieu a choisi, lui, de nous en parler dans la parole de Dieu. Il y avait un but. Et Dieu se servait des images. Savez-vous pourquoi? Bien, je vais vous lire un texte dans Lévitique 16, verset 15, en parlant ici de Aaron, qui servait de prêtre. Ça dit, « Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Il en portera le sang au-delà du voile. » Et puis quand on voit ça, tous les sacrifices, ça nous rappelait ici la laideur du péché. Et Dieu se servait de l'illustration, de l'image d'une bête sacrifiée avec le sang, tout ça. Et à chaque fois que quelqu'un commettait un péché et là, même faisait un sacrifice, il était rappelé en lui-même, là, à quelque part, c'est à cause de moi que cet animal-là vient de mourir. C'est à cause de mon péché et il devait voir le sang et la laideur du sacrifice pour se rappeler comment c'était laid aux yeux de Dieu, son péché. À quelque part, Dieu là, se servait des images. Ça, c'est juste une des choses. Et Martine en a parlé également. Prochain point, la guérison et la délivrance du péché. On dirait qu'on a travaillé ensemble, Martine. Mais vous savez, ça, c'est une autre chose. Dans Nombre 21, verset 9, ici, ça dit, « Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. » Donc, ces gens-là qui avaient été mordus, lorsqu'ils regardaient au serpent de bronze, étaient guéris surnaturellement. Mais là, on voit quelque part que Dieu s'est servi encore une fois d'une image ici, là, que les gens pouvaient regarder. Et qu'est-ce que ça représentait, cette croix ou cette perche avec le serpent? Ça représentait le péché qui était pour être transmis sur Jésus plusieurs années plus tard. Mais dans Jean 3, ici Jésus en parle lui-même, Jean 3, chapitre, verset 14 à 15, ça dit « Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. » Voyez, le Seigneur avait utilisé ça dans l'Ancien Testament et là, dans le Nouveau Testament, on a compris l'accomplissement de cette chose, que le serpent représentait le péché sur Jésus. Et on se dirait, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que son fils soit représenté par un serpent? Pourtant, on sait que le serpent, c'est comme Satan lui-même dans le Jardin d'Éden. Vous en rappelez de l'histoire? Comment ça, Dieu a permis ça? Et il voulait vraiment nous faire comprendre la réalité de ce verset ici que je vais vous lire dans 2 Corinthiens 5, 21. Ça dit, « Celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus, il n'a jamais connu de péché, il a fait devenir péché pour nous. » afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez, Jésus a porté tous les péchés de l'humanité pour lui. Et aux yeux de Dieu, c'était tellement laid le péché que Dieu, dans Matthieu 27, 46, dit, Jésus a dû crier, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » À cause de la laideur du péché. Mais encore une fois, Dieu s'est servi de l'or ici pour nous faire comprendre une réalité. Vous savez, même le baptême d'eau, encore une fois, c'est une illustration ça. Dans Romains 6, 4, ça dit « Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. » Alors ici, on voit encore une fois cette illustration pour ceux qui sont visuels. Comme on a déjà expliqué, le chlore dans l'eau n'enlève pas les péchés, mais c'est une illustration que Dieu se sert. Et une autre chose très importante qu'on doit comprendre, c'est que Dieu n'a pas terminé de se servir de l'or et Dieu n'a pas terminé de travailler. Et nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Savez-vous ça aujourd'hui? Que vous êtes la terre que Dieu, l'argile que Dieu veut utiliser ou travailler pour faire quelque chose de glorieux avec vos vies. Vous êtes l'attention, vous avez l'attention de Dieu. Dans Genèse 1, verset 27, ça dit « Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. » Et dans Ésaïe 64, verset 8, ça dit « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Et moi, je crois que le Seigneur a beaucoup de potentiel dans l'Église. Il y a tellement de personnes qui sont dans le corps de Christ et le Seigneur veut simplement avoir la disponibilité des gens pour faire quelque chose de glorieux, un vase d'honneur. Avez-vous lu ça dans la parole de Dieu? Il y a des vases d'honneur et des vases aussi qui sont pour une utilité commune. Mais Dieu, là, il veut se servir de nous. Mais à quelque part, il y a eu un mythe qui est rentré dans l'Église. Il y a eu un mensonge qui est rentré dans l'Église et le mensonge, c'est que Dieu choisit certaines personnes et dit, « Toi, je veux faire de toi comme un chef-d'œuvre, je veux faire de toi ce vase d'honneur. Et toi, non, toi, j'aimerais mieux créer un autre but pour ta vie, quelque chose de commun. » Et là, on se promène avec la pensée que, « Ah, bien, moi, je suis juste quelqu'un de normal, le terre à terre, et Dieu veut pas faire rien de grandiose avec ma vie. » Parce que oui, c'est écrit dans la parole, mais savez-vous, on doit revenir à la parole et voir qu'est-ce que Dieu avait en tête quand le Saint-Esprit a inspiré des textes dans la parole. Et je vous invite à tourner là, dans 2 Timothée, chapitre 2. Ici, on va voir que Dieu est le potier, mais que nous déterminons quelle sorte de vase que nous allons devenir dans le corps de Christ. Nous décidons qu'est-ce qu'on devient. Et on doit changer la pensée que nous sommes des pions entre les mains de Dieu. Ou même, comme je parlais avec mon frère cette semaine, il me disait, il y a des chrétiens qui pensent qu'on est comme des rats de laboratoire et que Dieu, il fait toutes sortes d'affaires avec nous, puis nous, on est les victimes de Dieu, puis Dieu choisit de faire ci avec ma vie ou Dieu... Non, Dieu nous a donné de l'autorité et Dieu veut qu'on choisisse d'être disponible entre ses mains, être obéissant et de se laisser façonner pour être ce vase de gloire. Voyez ici, dans 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil ou commun. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, en parlant des autres choses dans le chapitre, parlant de péché, il sera un vase d'honneur. Donc, si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voyez-vous ici une condition, si vous voulez être un vase d'honneur pour le Seigneur, vous voulez qu'il se serve de votre vie et vous voulez qu'il se serve des talents qu'il vous a donnés, bien vous avez simplement à demeurer pur. Et Dieu va se servir de vous et Dieu va vous faire en sorte, il va vous promouvoir, il va vous bénir et Dieu va vous utiliser au maximum. Donc le mythe dans l'Église de Jésus-Christ, dans notre province, qui dit que Dieu en choisit pour certains pour glorifier ou comme pour des buts glorieux, si on veut, puis d'autres, c'est toujours la moindre des choses. Non, Dieu veut se servir de tout le monde. Et des fois, c'est juste notre question, comment nous, on perçoit l'utilité. Vous savez, si Dieu vous appelle pendant un temps pour laver les toilettes à l'église, bien, savez-vous, ça ne veut pas dire que c'est commun, nécessairement. Si c'est la volonté de Dieu pour vous, pour un temps, bien, gloire à Dieu, vous êtes un succès aux yeux de Dieu. Mais, vous savez, il faut revenir à la pensée de Dieu et mettre les lunettes de Dieu pour voir comment Dieu perçoit des choses. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps où Dieu nous façonne. Autant, là, quand, vous savez, quand vous lavez la toilette, peut-être Dieu là, est en train de travailler votre argile. Peut-être c'est le temps où Dieu est en train de travailler des choses. Et là, plus tard, il va faire quelque chose de glorieux avec vous. Mais il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Il ne faut pas mépriser non plus le départ que Dieu a. On commence tous à la même place. On est simplement de l'argile entre les mains de Dieu. Il ne faut pas mépriser le processus. Donc, la controverse, OK, c'est dans Romains chapitre 9, versets 18 à 21. Romains chapitre 9, versets 18 à 21. Vous savez, on pourrait prêcher certaines choses et jamais s'adresser les choses qui peuvent être controversées dans le corps de Christ. Mais mon cœur pour vous, là, c'est que non seulement on puisse avoir la vision que Dieu veut nous bâtir, mais qu'on puisse également connaître qu'est-ce que les gens vont dire pour détruire notre foi. Savez-vous, c'est important de connaître déjà les arguments. Parce qu'il y a des gens, là, leur mission dans la vie, c'est de péter la balloune des croyants. Savez-vous ça? Il y en a, là, c'est ça leur don dans la vie. Vous promenez avec des balloons, vous êtes remplis de foi, de joie, de vision. Et eux autres, ils pensent leur don du Saint-Esprit, c'est de péter les balloons de tout le monde. Et leur dire, finalement, non, toi, Dieu, il ne t'a pas appelé à rien faire. Assis-toi, tu n'as pas de destinée. J'en ai rencontré des chrétiens comme ça. Vous allez dire, ah, c'est impossible. Non, 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 c'est possible. Je peux vous dire, il y en a des chrétiens comme ça. Mais si on connaît déjà la parole, on ne laissera pas personne péter nos ballons. On va dire, moi, mes ballons, je les garde plus haut. Tu ne peux pas les rejoindre. Amen. Romains 9, chapitre 18, ça dit, « Ainsi, il, en parlant de Dieu, fait miséricorde à ceux qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore l'homme, en parlant de l'homme? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? » Donc, si on a déjà lu ici que Dieu fait miséricorde à qui il veut, il fait des grâces à qui choisit de faire des grâces. Il endurcit ceux qu'il veut. Mais là, vous allez dire, comme ici, on voit le raisonnement humain, c'est dit, mais c'est qui va résister à la volonté de Dieu? Si Dieu choisit de faire une grâce à quelqu'un, puis là, il décide d'endurcir le cœur de l'autre, bien, on est qui, finalement? Dieu peut faire qu'est-ce qu'il veut avec nous, n'est-ce pas? C'est ça que le raisonnement humain, là. Verset 20, c'est dit, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? » Ou dans la version Martin, écrit en 1744, ça dit, « Le potier de terre n'a-t-il pas la puissance de faire d'une même masse de terre un vaisseau à l'honneur et un autre à déshonneur? » Et là, on peut lire ce texte-là et juste méditer là-dessus et dire, « Wow, finalement, Dieu, là, il choisit de bénir quelqu'un et pas quelqu'un d'autre. Et il va même endurcir le cœur de quelqu'un d'autre. » Est-ce que vous avez lu ça avec moi? Est-ce que ça vous porte peut-être à confusion et dire, « Mon Dieu, c'est pas juste? » Peut-être vous pensez comme ça. Mais savez-vous, Dieu est toujours bon et Dieu est toujours juste. Comment est-ce qu'on y arrive d'abord à comprendre ça? Savez-vous que quand on marche dans le péché et on refuse de se soumettre à la volonté de Dieu et on a un coup raide, comme la parole de Dieu nous dit, quand on a un coup raide, admettons, Dieu vous dit, tourne à droite, puis non, je ne bougerai pas. Le Saint-Esprit vous parle et vous dit d'agir d'une certaine façon, mais vous avez le coup raide puis vous ne voulez pas écouter ce que Dieu vous dit, bien là, Dieu va dire, bon, Joël, tu ne veux pas m'écouter, correct, je te laisse comme ça et je te laisse t'endurcir. Et là même, ça devient, ça dit ici, il endurcit notre cœur parce que son esprit cesse de nous travailler là-dedans, parce qu'on est tellement rebelle, on veut rien savoir. Dieu, finalement, il dit, correct, je te laisse à toi-même. Et quand ça l'arrive, bien là, on n'a pas la puissance de Dieu qui travaille notre cœur. Et par le fait qu'il ne nous touche pas, on s'endurcit. Comprenez-vous? Mais la révélation qu'on a besoin ce matin, Dieu a une révélation pour nous. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 4, ça dit, « Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté. » Il y en a qui vont dire, ben, « Nous sommes des pions entre les mains de Dieu, puis Dieu fait ce qu'il veut avec nous n'importe quand, n'importe comment. » Mais ici dans le texte, 1 Thessaloniciens 4, 3 à 4, ça dit, « C'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son propre vase, en sainteté et en honneur. » Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre avec le texte qu'on vient de lire dans Romains 9? C'est que Dieu ne veut pas faire du chrétien charnel un vase d'honneur. Dieu refuse de prendre quelqu'un qui vit dans le péché, qui n'a aucun intérêt pour Dieu, qui ne veut pas se soumettre à sa volonté. Dieu ne veut pas faire de cette personne-là un vase d'honneur dans l'Église. C'est simple, c'est pas compliqué, mais si vous êtes soumis à Dieu et vous dites, « Seigneur, moi, je veux faire ta volonté avec ma vie, je veux être soumis à ta volonté, bien bingo, vous venez de gagner la loterie, le Seigneur dit, « Finalement, je peux me servir de toi et maintenant, ma puissance va couler à travers toi. » Et là, toi, tu vas être un vaisseau, un vase d'honneur. C'est ça que Dieu veut. Combien de potiers connaissez-vous qui veulent créer des vases qui sont toujours ordinaires? Si vous parlez avec des artistes, pensez-vous qu'ils essaient toujours de faire le morceau le plus laid possible, le moins utile, le moins glorieux? Non, je pense que les artistes aiment faire des belles toiles, aiment ça faire des belles choses, n'est-ce pas? Et Dieu n'est pas plus fou que nous. Dieu veut faire des belles choses, il veut avoir des vases d'honneur dans son Église. Mais qu'est-ce qu'il a besoin? C'est de l'argile qui est malléable. Hein? Quand c'est tout gelé, là, ça se travaille mal. Hein? Mais c'est ça, notre désobéissance, c'est comme s'il travaillait avec un morceau de ciment. Ça ne marche pas bien. Mais quand on est souple, puis on dit, Seigneur, fais ta volonté à travers ma vie, là, on permet à Dieu, l'artiste, à faire de quoi glorieux avec nos vies. Donc, on peut devenir, à quelque part, un partenaire à la création de Dieu, un partenaire à l'art de Dieu, en étant nous-mêmes son vase sur la terre. N'est-ce pas? C'est merveilleux, ça. Dans 2 Corinthiens 4, verset 7, il est écrit, « Nous portons ce trésor, la lumière de l'Évangile, ici, ça nous parle, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Tout ce qu'on va faire dans notre vie, c'est pour glorifier le Seigneur. Tout ce qu'on peut accomplir, c'est jamais gloire à nous, c'est toujours gloire à Dieu. Amen. C'est ça que le Seigneur se recherche, des gens qui disent oui à Dieu. Et savez-vous une autre chose merveilleuse? Dans Éphésiens 2:10, ça dit, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Chaque personne a un appel sur sa vie et chaque personne a une destinée à accomplir. Nous sommes tous appelés de Dieu à faire quelque chose. Et la chose la plus triste dans le corps de Christ, c'est quand quelqu'un essaye d'être quelqu'un d'autre dans le corps de Christ. Ils disent, wow, cette personne-là prêche super bien ou cette personne-là chante super bien. Et là, finalement, on a plein d'imitations dans le corps de Christ. Savez-vous, il y a des gens qui ont un ministère de guérison et ils portent un manteau blanc. Et là, quelqu'un d'autre aussi veut faire un ministère de guérison et il pense qu'il doit porter un manteau blanc afin que l'onction de Dieu coule dans sa vie. C'est pas ça. La puissance de Dieu ne vient pas par un manteau blanc. Vous pouvez porter un manteau jaune et avoir l'onction de Dieu. Savez-vous? C'est possible. Nous devons être nous-mêmes. Moi, je peux vous dire, j'ai eu plein de prédicateurs dans ma vie. Je me suis assis puis j'ai reçu des messages de puissance, des messages sous l'onction. Et j'ai voulu recevoir l'onction qui était sur la vie des prédicateurs que j'ai entendus. Mais je n'ai jamais voulu imiter un prédicateur. Savez-vous pourquoi? Parce que moi, je crois que je suis le meilleur Joel Spink sur la planète. C'est arrogant. Non, moi, je crois que je suis unique au monde. Je crois que vous êtes unique au monde. Et après vous, Dieu a brisé le moule. On ne veut pas être quelqu'un d'autre. Moi, qu'est-ce que je trouve triste, c'est quand on va dans une église, admettons, on visite une église, et là, on entend le pasteur senior, il prêche comme ça, d'une certaine façon, et là, l'assistant pasteur, il prêche pareil, puis il a même intonation de voix, puis c'est pareil, pareil, puis « Hallelujah », puis « Hallelujah ». Mais là, c'est vrai, on dit, « Mais t'es qui, toi? T'es-tu pasteur, seigneur, imitation? Non, on est tous différents. Ça ne veut pas dire non plus qu'on n'aura pas des plis, des choses où on va être similaire. Ça se peut parce que quand on est assis sous l'onction de quelqu'un après des années de temps, bien, on va avoir son ADN. Quelque part, ça va venir nous toucher. Comme si vous êtes à l'église ici, bien, ça se peut que vous allez dire « gloire à Dieu » ou peut-être « c'est quoi je dis beaucoup? C'est glorieux, n'est-ce pas? » Ça se peut que vous allez dire « c'est glorieux ». Ça se peut que ça va déteindre sur vous. Mais à quelque part, on s'attend que vous allez être vous autres même. Hein? Vous allez être vous-même, puis on veut célébrer qui vous êtes, n'est-ce pas? Il y en a des gens qui admirent un tel prédicateur, ils vont aller se teindre les cheveux la même couleur. Je connais des gens comme ça. Ils vont se teindre les cheveux la même couleur, mais on passe à côté. Puis c'est ça, des fois, là, c'est comme, il faut réaliser qu'on est le chef-d'œuvre de Dieu. Puis après vous, là, Dieu il a brisé le moule. Vous êtes tellement précieux. Et avec qui vous êtes, votre personne, Dieu a déposé un don. Vous avez tous un don, là. Peut-être que vous ne savez même pas c'est quoi encore, là. Mais Dieu a un don en dedans de vous. Il s'attend juste que peut-être vous ouvrez les horizons et dites, Seigneur, ça fait longtemps, là, moi, à l'Église, le monde artistique, je n'allais pas dans cette dimension-là parce que je ne me pensais pas artiste. Mais peut-être le Seigneur a donné des dons artistiques en dedans de vous, puis vous ne le savez même pas, puis que vous devez juste laisser peut-être votre pensée imaginer des choses. Moi, je peux vous dire, hier, mon épouse et moi, ça s'est donné qu'on est allé à Fredericksburg et c'était le Festival des arts. Et hier matin, Mathilde s'est réveillée puis elle a dit, « Tu me sembles, j'aimerais ça aller à Fredericksburg. » J'ai dit, « Bon, on pourrait aller manger un pique-nique là-bas. C'est beau, c'est la nature, il faisait super beau hier. » Sauf qu'en arrivant là-bas, on a découvert que c'était le Festival des arts. Puis j'ai dit, « Hey, wow, c'est spécial. Demain, je prêche là-dessus, justement. » J'ai trouvé ça, c'était spécial comme Dieu avait organisé les choses. Et là, j'ai regardé toutes sortes d'affaires et je me suis rappelé que quand j'étais au secondaire, moi, j'aimais beaucoup faire la sculpture. Et à l'école, mes deux meilleures classes, là, c'était en religion, c'était numéro un. Et deuxième cours où j'étais le meilleur, c'était dans les arts. Puis j'ai dit, « Ah, peut-être que je devrais recommencer à faire ça, des sculptures. » Je ne sais pas, là, ma femme a dit, « Mais quand est-ce que tu aurais le temps de faire ça? » Je cours déjà après le temps. Mais je ne sais pas. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Hein? Dans la vie, on n'est pas obligé de toujours faire la même affaire. Mais des fois, c'est juste de laisser Dieu mijoter des choses dans nos cœurs et dire, « Peut-être Seigneur va se servir de moi. Peut-être vous, vous êtes artiste, vous faites des toiles. » Savez-vous, dans notre église en Alberta, pendant la louange, il y avait parfois quelqu'un sur l'estrade qui peinturait, qui faisait des toiles. Là. C'était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et là, il y avait un message que quelqu'un dans l'Église pouvait recevoir par ça. Il y a toutes sortes de façons que Dieu peut s'exprimer et Dieu peut se servir des arts, certainement. Dans Éphésiens 5, verset 1, là, en concernant l'imitation, ça dit « Devenez donc des imitateurs de Dieu. » Donc Dieu, là, la seule chose, la seule personne qui veut qu'on imite, c'est lui. Et Dieu marche toujours dans la vérité, Dieu marche toujours dans l'amour, Dieu marche toujours dans l'intégrité. Mais si on est comme lui, on est gagnant. Amen. Donc, une autre chose que le Seigneur veut qu'on fasse, c'est enlever nos barrières religieuses ce matin. Il faut enlever ces barrières-là. Il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais Joël, moi, les arts, là, mais ça n'a jamais fait partie de ma vie. » Ah, ça n'a pas fait partie de ma vie. Je sais que l'image est un petit peu spéciale. Dans Josué chapitre 1, versets 1 à 2, il est écrit, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Ici, là, Dieu devait parler au prophète Josué et lui dire, « Moïse, mon serviteur, est mort. » OK, tourne la page, mon homme. « Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Dieu a un plan pour rejoindre le Québec et c'est un plan spécifique, stratégique. Dieu a des façons d'agir. Et si on dit, ouais, mais moi, je n'ai pas été élevé chrétiennement comme ça. Même une sœur dans l'Assemblée ici m'a dit, hey, moi, quand j'ai été sauvé, j'ai mis de côté les arts parce que je ne savais pas qu'un chrétien dans une église pouvait avoir ça. Je pensais que c'était fini mon temps des arts dans l'église. Mais c'est triste, ça. Quand c'est ça notre don, que Dieu nous a donné, on met ça de côté parce que là, on est un enfant de Dieu, puis ça vient de cet angle-là. Non, Dieu veut se servir de ça. Donc, des fois, Dieu était obligé de dire au peuple, et ici, dans le cas, c'était à Moïse, à Josué plutôt, il disait à Josué, « Moïse, mon serviteur est mort. » Est-ce que vos yeux sont encore sur les choses du passé ou vous pouvez regarder vers l'avenir et dire, Seigneur va faire des nouvelles choses. Il y a un nouveau vent qui s'en vient au Québec. Il y a des nouvelles façons d'agir parmi nous. Et si on dit, oui, Seigneur, on est prêt à tourner la page sur la religion, là, on peut découvrir des nouvelles choses. Dans Ésaïe 43, verset 19, il est écrit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et il y a un autre texte dans la parole qui dit que Dieu va envoyer son eau, ses rivières sur le sol desséché. Et ça, c'est le Québec, c'est un sol desséché où les gens ont soif de Dieu, ils ont soif, mais ils ne savent pas où se tourner. Et puis c'est pour ça que les gens se tournent vers toutes sortes de choses, se tournent vers le Nouvel Âge, se tournent vers les sectes, parce qu'ils ne savent pas où se tourner, et puis finalement, il y a toutes sortes de messages qui sont véhiculés. Mais imaginez si les chrétiens, si nous qui avons la vérité, si on commençait à prêcher l'Évangile d'une façon nouvelle, et peut-être même faire des mimes dans un festival, par exemple. On fait des mimes et les gens écoutent ça, ils voient, ils n'écoutent pas, mais ils voient quelque chose. Et là, entendre le message de Jésus pour la première fois, ils se donnent à Dieu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Des pièces de théâtre? Pourquoi pas? Par le chant? Il y en a des gens qui sont doués, qui ont un don comme ça pour chanter. Il y a des gens qui peuvent être sauvés même juste en regardant une toile, comme l'Éternel est mon berger, à quelque part, juste voir ça. J'ai eu des témoignages, moi, des gens qui ont vécu une expérience au niveau des sens là, dans le domaine des arts, et puis ils ont vu toutes sortes de choses qui représentaient la nouvelle naissance, simplement des choses visuelles, là, des images. Et ils ont été sauvés par ça. Pourquoi pas? Donc, il y a des clés pour le Québec que le Seigneur veut se servir. Et en terminant, le Seigneur peut-être aujourd'hui vous dit, permettez-vous d'imaginer ce matin. Permettez de penser des nouvelles choses. Dans Proverbes 29-18, ça dit, « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. » On parle de vision. Quand on n'a plus de vision pour l'avenir, on vit dans le désordre. N'est-ce pas? Ça, c'est écrit dans la parole. Mais ce n'est pas simplement une vision dans le sens que une vision dans notre cœur, ça se réfère à ça certainement. Mais même, on peut même le prendre littéralement ici et dire, quand on donne une vision aux gens qui puissent voir le salut d'une façon visuelle, OK, par les arts, les gens peuvent être touchés. Et dans Psaume 34, verset 8, ça dit, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez que l'Éternel est bon. » Ici, c'est certainement un langage artistique, OK? Mais savez-vous, on peut prendre ce langage-là et même y croire d'une façon littérale. Moi, là, j'étais dans une église et le frère Bertrand Bouchard est en train de prêcher. Puis il disait, sentez, voyez que l'Éternel est bon. Et puis il nous parlait qu'il est Lily of the Valley, ça c'est la lys, le lys? Le lys. Et puis moi, j'étais jeune et innocent. Pardon? Peu importe, c'est une fleur dans la Bible. Et puis moi, j'étais assis à l'église. Et j'étais jeune et innocent. J'avais peut-être 10-12 ans. J'étais assis là, puis là, le frère Bouchard parlait comment... Sentez la bonté de Dieu. Et moi, j'étais assis là, puis j'ai dit, et tout d'un coup, je me suis mis à sentir les roses du ciel. Je sais, peut-être certains d'entre vous, vous allez dire, il est tombé sa tête, là. Mais c'est vrai, j'ai senti littéralement un parfum. Ma mère aussi a senti ça. Et puis, vous savez, je vais vous raconter l'histoire. Son épouse, Janine, elle sortait des salles de bain, et moi, j'étais assis tout près des salles de bain. Ça veut dire, je me suis dit, peut-être elle a mis du push-push dans la salle de bain. Je vais aller lui demander. Ça veut dire, je suis allé lui demander, j'ai dit, Janine, t'as-tu mis du parfum là, dans la salle de bain? Parce que je sens toutes sortes de roses. Puis elle dit, mon petit bonhomme, elle dit, j'ai mis de quoi? Elle dit, c'est de l'eau de Javel. Elle dit, moi, je mets rien. Elle dit, je travaille tout le temps dans l'eau de Javel. Elle dit, moi, je ne touche pas à ça, le parfum. C'est-à-dire que c'était vraiment un parfum du ciel. Donc, Dieu, là, il peut se servir de n'importe quoi pour rejoindre les gens. Et une des choses, OK, Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est se servir de nous et qu'on puisse penser à des nouvelles façons de rejoindre les gens. Il y a toutes sortes de moyens, la prédication, mais Dieu veut qu'on puisse imaginer qu'est-ce que Dieu a dans ses pensées. Et vous savez, ça, là, Dieu, il va faire en sorte qu'on puisse être des instruments entre ses mains pour accoucher spirituellement d'un peuple québécois. Moi, je crois là, que Dieu veut passer par la créativité pour voir des choses glorieuses. Et une des choses, c'est simplement par la puissance de la pensée. Vous savez, le Nouvel Âge, eux, ils parlent de la pensée positive. Mais ça, c'est quelque chose qui est emprunté de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous parle qu'on devrait penser comme Dieu pense. Et le Nouvel Âge, ou le monde dans le monde là, qui ne connaissent pas Dieu, eux, ils prennent des principes là, de la pensée positive et puis finalement, ils vont penser d'une façon positive, mais c'est dans le mensonge et puis ça ne portera pas fruit. Mais nous, vu qu'on a la vérité de la parole de Dieu et ça s'adonne que les promesses de Dieu sont positives, bien là, si on pense les promesses de Dieu, on peut commencer à les voir en opération dans nos vies. Croyez-vous ça? Et là, les gens vont dire, « Ouais, mais toi, tu crois dans la pensée positive. » Ben, si vous le définissez comme ça, mais moi, je pense la Bible. OK? Et ça donne que la Bible, c'est toujours positif. Bon, ben, par déduction, je pense positivement. Mais ce n'est pas le principe dans les airs, la pensée positive. C'est la pensée biblique. OK? Et quand je pense et je pense bibliquement, Dieu, là, quand il veut nous parler, il va se servir d'image. Admettons, si je vous parle d'un chien en ce moment, c'est quoi qui vient de venir dans votre tête? Vous avez l'image qui vient d'apparaître, là. Vous venez pas de voir un éléphant, n'est-ce pas? Vous venez de voir un chien. Si je dis un chien noir, vous venez pas de... Dans votre tête, ça l'a pas fait N-O-I-R. Non. Vous avez vu un chien noir dans votre tête, n'est-ce pas? Donc, vous avez visionné dans votre tête le message que je voulais vous envoyer. Mais la même chose, Dieu nous donne des mots dans la parole, OK, qui créent des images à l'intérieur de nous, qui donnent nos pensées. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme est comme les pensées de son cœur. Donc, nous allons devenir ce que nous pensons. Et ça, c'est un outil que Dieu va utiliser pour créer, pour faire en sorte que nous devenions des vases d'honneur. Savez-vous ça? Si vous pensez que vous êtes né pour un petit pain, et que votre usage, c'est commun, et que vous n'accomplirez jamais rien pour Dieu, c'est vrai. Vous allez être ce que vous pensez. Mais si vous pensez que Dieu vous aime, que Dieu a un plan et une destinée pour votre vie, et vous changez vos pensées, vous êtes renouvelé dans vos pensées, vous êtes transformé par le renouvellement de votre intelligence, et là, vous commencez à vous voir comme Dieu vous voit, que vous êtes un bien-aimé, que Jésus a donné sa vie tellement il vous aimait, bien là, vous vous voyez comme Dieu vous voit et vous pensez de vous-même d'une façon positive. Et là, Dieu peut se servir de vous et faire des grandes choses à travers vos vies. Et vous savez, il y a une puissance dans nos pensées. C'est pour ça que le diable, il veut emprunter ou voler plutôt les vérités de la parole de Dieu, mettre ça dans la société et on mélange tout ça avec toutes sortes de mensonges. Et là, les gens se mettent à croire dans la pensée positive, mais en réalité, là, c'est simplement la pensée biblique qui va fonctionner pour vous. Dans Genèse 11, verset 6, ici on voit, vous connaissez l'histoire de Babel, les gens là, qui construisaient cette tour. C'est-à-dire, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage, une même langue plutôt. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris en parlant de la tour de Babel. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté ou dans la version Darby, ou tout ce qu'ils pensent faire. Quand on pense faire quelque chose, ici Dieu disait, il n'y a rien qui peut les empêcher. Et pareillement, si on peut commencer simplement à se voir et imaginer ce que Dieu voit sur nous, là, on enlève les barrières. Et là, on peut rêver au maximum. C'est correct de rêver. Quand vous êtes un enfant de Dieu et vous avez l'Esprit de Dieu en dedans de vous, c'est correct de rêver, de voir grand et de voir en couleur. Moi, je me suis fait accuser de voir en couleur, de rêver en couleur. C'est correct. Ça ne coûte pas plus cher que de voir en noir et blanc. C'est vrai. Vous pouvez rêver. Moi, là, je suis appelé à, je ne sais pas, à laver le plancher toute ma vie. Mais c'est correct. Vous pouvez le faire. Mais savez-vous, si Dieu veut faire de vous le conducteur de chant qui va rejoindre 50 millions de personnes, bien rêvez, rêvez plus grand. Amen. Dans Éphésiens 3, verset 20, ça dit, « À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandions ou même imaginons. » C'est dans la version français courant. « Par la puissance qui agit en nous. » Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous aurons demandé ou même imaginé. Ça veut dire que vous avez le droit d'imaginer. Ça veut dire qu'on a le droit de sortir de la boîte de la religion qui dit que ça va toujours être de la même façon puis on va toujours être pareil. Mais non, Dieu veut nous changer, nous transformer et faire de nous des vases d'honneur. Et moi, là, quand Dieu me dit ça, je dis, oui, Seigneur, change-moi, je veux être cette argile que tu peux transformer. Parfois, des fois, si je suis un petit peu trop sec dans des coins et tu dois l'arranger pour que je sois plus souple, peut-être tu as besoin d'envoyer un petit peu d'eau sur qui je suis, peut-être j'ai besoin un petit peu plus de ton onction, plus de la rivière du ciel pour me façonner. Oui, Seigneur, envoie ton esprit davantage sur moi. Change-moi, enlève les choses. S'il y a des roches dans l'argile, enlève ça, Seigneur, que je sois vraiment disponible pour toi. Amen. Puis je peux vous dire, là, ça, là, vous pouvez prendre ces principes-là et transposer ça dans toutes les dimensions de votre vie. J'ai entendu un témoignage cette semaine, une femme qui était malade dans son corps, puis elle priait, elle disait, Seigneur, je veux être guérie, puis elle faisait de l'épilepsie. Et c'est une femme qui avait été élevée chrétiennement, elle croyait dans les promesses de Dieu, mais pourtant, elle ne vivait pas la guérison. Puis pendant des années, elle méditait la parole, elle confessait la parole, était dans des enseignements bibliques, c'était super bon, mais pourtant, elle faisait quand même des crises d'épilepsie, puis elle était désespérée, puis elle a dit, Seigneur, c'est quoi j'ai besoin de faire? Et le Seigneur lui a fait comprendre qu'elle se voyait toujours en train de faire des crises d'épilepsie. L'image dans sa tête qu'elle se voyait, c'est en train de faire des crises d'épilepsie. Et un jour, le Seigneur a dit, c'est le temps de te voir comme moi je te vois. Mets les lunettes du ciel. Moi, je ne te vois pas en train de faire des crises d'épilepsie parce que je t'ai guéri il y a 2000 ans. Et puis, elle a eu une révélation un jour et elle a commencé à se voir libre. Elle se voyait guérie. Et là, elle n'a plus jamais fait de crise d'épilepsie en 15 ans. C'était une révélation comme ça que Dieu peut nous donner. Vous savez, ce n'est pas le nouvel âge, c'est la vérité. Il faut juste... C'est simple, la Bible. On parle comme Dieu parle, on pense comme Dieu pense, on voit ce que Dieu voit. S'il y a des gens autour de vous, vous les voyez tout croche, vous pouvez juste les voir comme tout croche et arrêter ça là. Mais si vous dites, Seigneur, donne-moi tes yeux, c'est quoi la destinée de la personne? Peut-être tu veux faire quelque chose de grandiose avec la personne. Donne-moi tes yeux pour voir le potentiel dans la personne. Donne-moi les yeux, donne-moi l'amour pour aimer la personne jusqu'à temps qu'elle arrive à ce point-là. Vous savez, il y a tellement de potentiel. Dieu, c'est un grand artiste. Il veut faire des chefs-d'œuvre avec nos vies. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est dire oui au Seigneur. Et l'autre chose qu'on doit faire, c'est comprendre que nous avons une responsabilité à jouer. Dieu ne choisit pas qui. OK, toi, je vais faire quelque chose. Non, pas toi. Ça, il faut penser différemment là, dans l'Église québécoise. Ça, c'est un mensonge. Puis j'en entends parler régulièrement. Même la semaine passée, j'ai rencontré des chrétiens qui pensaient comme ça. Mais vous savez, Dieu, là, Dieu, c'est un bon Dieu. Il veut faire des belles choses au Québec. Il veut rejoindre toute la francophonie. Est-ce qu'on dit oui aujourd'hui que Dieu va servir de nous? Et peut-être même Dieu va vous donner des rêves. Il va vous faire imaginer que vous êtes un artiste. Et là, Martine va être débordée. Elle va avoir plein de monde qui va dire, oui, je veux participer à Noël dans le spectacle. Oui, oui, oui. Amen. Alors, c'est un message assez simple aujourd'hui. Mais je pense que si on le met en pratique, on peut voir du fruit. Hein, il y a toutes sortes de choses qu'on a besoin dans notre croissance d'église, en église, là, pour avoir tous les morceaux à la bonne place. Hein, ça prend des temps aussi comme ça. Alors, on va prier ensemble et on va inviter l'équipe de la louange et on va prier que le Seigneur puisse vraiment travailler dans notre église à ce niveau-là, dans les arts. Seigneur Dieu, on veut te remercier, Seigneur, parce que tu n'as pas fini de travailler dans nos vies.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.